Hebdo Région. 7 jours dans les pays de la Loire.
Damien Le Boulanger.
Bonjour, l'actualité de la semaine dans votre région des Pays de la Loire résumée en 25 minutes, c'est tout de suite dans l'Hebdo Région, comme chaque semaine, une émission concoctée par les rédactions du Mans, d'Angers, Laval, Nantes et La Roche-sur-Yon. En Sarthe, les dossiers médicaux se transforment en tablettes numériques, un nouveau pas du CHU du Mans vers la dématérialisation des informations, nous expliquera Adrien Blanc. Manger des produits frais et locaux dans les cantines scolaires, la volonté est souvent mise en avant, mais pas toujours concrétisée. En Anjou, producteurs et collèges viennent de se constituer en réseau pour en renforcer la pratique, nous l'entendrons. Du Maine-et-Loire, nous passerons ensuite en Mayenne où nous parlerons surtout économie et morale des entrepreneurs. Un moral positif mais inquiet, témoignera le président de la CCI de la Mayenne. Après leur déclinaison en région la semaine dernière, les folles journées de Nantes vivent leur apothéose ce week-end au rythme du grand sacre russe dans la capitale régionale. Anthony Torzek nous en partagera quelques aspects. Enfin, nous parlerons du Puy du Fou et de Jean de la Fontaine avec Fanny Brevet. Le parc d'attractions vendéen vient de présenter sa programmation pour la saison à venir.
L'Hebdo Région, les radios chrétiennes à l'écoute des Pays de la Loire.
Adrien Blanc, bonjour.
Bonjour.
Vous nous parlez depuis les studios de RCF Le Mans pour nous présenter l'actualité en Sarthe. Une actualité tout d'abord marquée par un événement tragique, la dégradation d'une mosquée au Mans. Dégradation que des responsables politiques sarthois ont condamnée cette semaine.
Et oui, il s'agit de la mosquée des Glonières qui a été taguée de messages islamophobes et xénophobes comme « Islam hors d'Europe »,« No Islam » ou encore « France aux Français ». Les faits ont été commis dans la nuit de lundi à mardi et 24 heures plus tard, le maire socialiste du Mans, Jean-Claude Boulard, était sur les lieux. L'UMP de la Sarthe a elle aussi condamné les tags, de même que l'évêque du Mans, Monseigneur Yves Le Sault, qui a par ailleurs demandé que le monde public, que ce soit des hommes politiques ou institutions, soit responsable de ses propos.
La préfecture de la Sarthe a pour sa part révélé les chiffres de la délinquance pour 2011.
Et ils nous apprennent beaucoup de choses, notamment que les violences urbaines ont augmenté de 24% en Sarthe l'an dernier. Elles concernent pour moitié les zones urbaines sensibles, mais la gravité de ces violences a baissé puisque ce sont surtout des feux de poubelle et des dégradations. Autre sujet de préoccupation, l'alcool. Le nombre d'interpellations pour ivresse publique a augmenté de 8,5% en ville en 2011, d'où la hausse du nombre de bagarres à main nue ou avec des couteaux en centre-ville du Mans. Attention, il ne faut pas dramatiser, le taux de délinquance en Sarthe reste inférieur à la moyenne nationale. Sur une base de 1000 habitants, il y a 5 atteintes volontaires à l'intégrité physique en Sarthe contre 7 au niveau national.
La manifestation des enseignants mardi a pris une tournure inattendue au Mans.
Oui, c'était du jamais vu. Plusieurs dizaines de manifestants ont envahi les bureaux de l'inspection d'académie de la Sarthe après une manifestation qui avait rassemblé 400 personnes. Ils ont obligé Emmanuel Roy, l'inspecteur d'académie, à les recevoir. Ils l'ont interpellé sur les dizaines de suppressions de postes dans le département et l'inspecteur d'académie a répondu qu'il ne faisait qu'appliquer la loi et que les établissements scolaires pouvaient faire face.
Mais Adrien, cette semaine, vous avez décidé de vous arrêter plus longuement sur une nouveauté. Les tablettes numériques séduisent les partis, mais aussi les institutions publiques, puisque l'hôpital du Mans va s'équiper d'au moins 100 tablettes d'ici la fin de l'année.
Et elles vont remplacer la fameuse pancarte, cette feuille pendue au lit du patient avec ses courbes et ses chiffres. Bientôt, les médecins n'auront qu'à pianoter sur leur écran pour connaître les constantes, c'est-à-dire les données vitales du malade. Ils pourront aussi dicter leurs observations à la tablette qui les écrira dans le dossier comme une secrétaire virtuelle. Le docteur Valérie Serra-Maudet expérimente le dispositif en tant que chef de projet médical.
C'est un outil qui sera utilisé dans la chambre du patient puisque c'est là que les infirmières et les aides-soignantes viendront noter les constantes qu'elles ont relevées chez le patient et qui permettront d'alimenter ce dossier 24 heures sur 24, ce qui explique la nécessité absolue de cette mobilité, et qui permettront en même temps qu'à d'autres endroits du service, en particulier dans les salles de soins pour la préparation des médicaments, dans le bureau infirmier pour les prises de décisions médicales ou les prescriptions par exemple, nous puissions, nous, avec d'autres instruments, consulter ces données que les infirmières vont venir remplir au lit du patient. Donc c'est ce type d'outil, bien sûr, qui va être le plus utile, le plus simple, à la fois parce qu'il est portable, à la fois parce qu'il est facile d'usage, que les modèles que nous avons prévu d'acheter sont des modèles spécifiquement dédiés au milieu médical, en termes de solidité, d'hygiène, puisqu'on a des contraintes d'hygiène importantes, et puis qui sont les outils que nous utiliserons en 2014 pour la prescription, puisque la prescription se fera comme elle se fait aujourd'hui au lit de nos patients, pour l'instant sous forme manuscrite et bientôt sous forme informatisée, avec la réduction de la chaîne chaîne de prescription que ça implique, c'est-à-dire qu'une seule prise, une seule prescription nous suffira pour être envoyée en termes d'information à toutes les entités utiles dans l'établissement. Je pense à la pharmacie, je pense à nos unités de soins où les infirmières préparent les perfusions par exemple.
Les tablettes numériques seront donc connectées sans fil à un serveur informatique qui centralisera toutes les données. Ainsi, l'hôpital du Mans espère se débarrasser des dossiers papier d'ici 2016. Et ce dossier patient informatisé pourra être partagé avec les médecins traitants ou un autre hôpital, mais seulement si le patient est d'accord. Et ces données partagées seront alors stockées au niveau national dans le dossier médical personnalisé.
Et on termine sur quelques mots de littérature. Il était une fois une traductrice de polar et un commissaire.
Et voilà ce qui pourrait faire la première phrase d'un roman policier, mais c'est plutôt l'affiche d'une rencontre, Histoire de femmes, qui a lieu ce samedi. Des romancières et dessinatrices de bandes dessinées se retrouvent au Palais des Congrès de la Culture du Mans. Elles vont parler de leurs livres et de la littérature au féminin. On attend notamment Andrea Japp, traductrice de Patricia Cordwell, Danielle Thierry, ancienne commissaire devenue romancière, mais aussi des dessinatrices à succès comme Zena Abirached ou Aurelia Orita. La rencontre Histoire de femmes, c'est donc ce samedi au Palais des Congrès de la Culture du Mans.
Et merci Adrien Blanc, vous nous présentiez l'actualité en Sarthe.
Merci.
L'Hebdo-Région, au cœur des Pays de la Loire.
Et nous rejoignons maintenant Élise Lemaire dans les studios de RCF Anjou. Bonjour Élise.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
Alors dans l'actualité du Maine-et-Loire, nous parlons agriculture et alimentation. Producteurs de fruits et légumes et cantines scolaires du Maine-et-Loire viennent de renforcer leur collaboration en créant un véritable réseau structuré, son nom Réseau Local.
L'idée de valoriser les produits agricoles de proximité dans les établissements de restauration collective du département a été développée depuis 2009 par le Conseil Général, l'Association des maires de Maine-et-Loire et la Chambre d'agriculture. Cette année, plus de 50 collectivités et établissements de restauration collective et plus de 200 producteurs et entreprises agroalimentaires du département ont finalement décidé de s'engager dans la promotion de ce circuit court. Une démarche présentée officiellement cette semaine à la presse qui impose au personnel de cantine, notamment, d'adopter de nouvelles habitudes. C'est ce que nous explique Régis Grégoire, chef de cuisine au collège Clément Jeannequin d'Avrier.
On s'impose de travailler avec des produits du Maine-et-Loire, de préférence, ou de la région. J'ai toujours favorisé le fait maison. Donc maintenant, disons que c'est un peu plus valorisant de travailler des produits de qualité et de renforcer en plus la production locale.
Sur un plan économique, qu'est-ce que ça change concrètement?
En utilisant des bons leviers tels qu'une gestion idéale et une bonne gestion des grammages par rapport à une qualité supérieure des produits, donc une perte minimum à la cuisson par exemple, on peut arriver à compenser le surcoût de la production locale et donc équilibrer sur l'année parce que bon, nos repas ils sont établis avec un budget pour l'année et donc si un jour on choisit de faire un produit local qui va être beaucoup plus cher, on arrive à équilibrer en faisant un autre jour quelque chose un peu moins coûteux. Si on limite le grammage en augmentant la qualité des produits, on arrive à bien gérer la dépense supplémentaire qui peut être occasionnée.
Les jeunes gastronomes, qu'est-ce qu'ils en disent de ce changement? Est-ce qu'ils constatent déjà une différence?
Absolument, ils constatent la différence d'une part parce que nous on les informe sur la provenance des produits, donc ils voient bien qu'il y a une évolution dans ce sens-là. Maintenant on met en valeur les produits qu'on propose au niveau du self et donc ils voient que c'est des produits qui ont été fabriqués près de chez eux, donc ils ont plus envie de goûter, ça les interpelle un petit peu plus.
Régis Grégoire, chef de cuisine du collège Jeannequin, dont la cantine utilise 30% de produits issus du circuit court, un chiffre qui devrait atteindre les 50% dans le courant de l'année.
Nous parlons d'autres chiffres encore, mais cette fois-ci économiques. Le tourisme d'affaires vit un plein essor et crée des emplois dans le bassin angevin.
Un constat dressé cette semaine par le bureau des congrès et événement d'Angers, 2 ans après sa création. Le secteur du tourisme d'affaires représente aujourd'hui 50 millions d'euros de retombées économiques sur le territoire d'Angers-Loire-Valais. Une action à laquelle le bureau des congrès affirme contribuer. Il promeut et organise près de 2000 événements professionnels et rencontres d'affaires chaque année et compte bien la développer avec la construction d'un nouveau grand centre des congrès prévu pour 2016.
Un Segréen dénonce le fichage des élèves par l'éducation nationale.
Il a décidé de déposer ce vendredi une plainte devant le tribunal administratif de Nantes. Son intention, faire retirer de la base élève premier degré les données concernant son enfant. Cette base est considérée par l'administration comme une application informatique d'aide à l'inscription des élèves et à la gestion pour les directeurs d'école et les mairies de France. Elle apporte des informations relatives à chaque enfant. Pour le père de famille, le problème du fichage de ses écoliers porte atteinte à la Convention internationale des droits de l'enfant. L'APF Pays de la Loire veut combattre la difficulté qu'ont les paralysés à accéder aux soins. Pour cela, l'Association des paralysés de France a lancé lundi un premier blog internet dédié à la santé, site sur lequel les usagers peuvent désormais témoigner de leur expérience et demander de l'aide pour profiter pleinement des services de santé. Accessible par le biais de la page internet de la délégation ligérienne, ce blog se veut bien plus qu'une simple compile de plaintes. Il doit permettre de recenser toutes les difficultés. L'association pourra ensuite œuvrer pour que des solutions soient trouvées à l'adresse blogsanté.blog.apf.fr.
Enfin, un mot de sport et Willy Bernard qui se porte en cassation.
L'ancien président du club de foot Angesco a décidé mercredi de se pourvoir en appel, contestant sa peine confirmée mardi par la cour d'appel d'Angers. Une condamnation pour abus de biens sociaux qui lui interdit, entre autres, de diriger une entreprise pendant 5 ans. Willy Bernard a par ailleurs rendez-vous de nouveau lundi avec la justice, cette fois-ci au Mans pour son volet de fraude fiscale.
Merci Élise pour cette actualité du Maine-et-Loire et à la semaine prochaine.
L'Hebdo Région, au cœur des Pays de la Loire.
Troisième étape de ce tour de l'actualité en Pays de la Loire, on s'arrête à Laval, en Mayenne, pour retrouver Véronique Lara de Fidélité Mayenne. Bonjour Véronique.
Bonjour Damien.
Vous nous donnez cette semaine des nouvelles plutôt économiques.
À commencer par celle du tribunal de commerce de Laval qui dresse un bilan relativement stable de ses activités pour l'année 2011, mais cela dit contrasté. Après une amélioration des affaires dans les 8 premiers mois de l'année, les dossiers ont été plus nombreux au cours du dernier trimestre. Cependant, le nombre total de dossiers reste inférieur à celui de 2010. Bémol à cette stabilité, les entreprises étaient en plus mauvais état qu'avant et leurs issues plus souvent fatales. Deux entreprises avaient plus de 50 salariés. Une reprise a été possible, ça n'a pas été le cas de l'usine Pébéco de Port-Brier qui, elle, a dû fermer ses portes avec 80 salariés. Au total, ce sont 418 emplois qui ont disparu en Mayenne en 2011 pour 511 en 2010, quoique le chiffre d'affaires représenté était plus important. On reste dans l'économie mayennaise avec les propos du président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Mayenne sur le moral des entreprises locales, positif mais inquiet. On écoute Patrice Degnaud.
Je crois que c'est compliqué de vouloir faire un bilan général sur l'ensemble des entreprises. Cela dit, la Mayenne, on a la chance d'avoir nous un réseau d'entreprises globalement qui vont bien, d'entreprises à capitaux familiaux, d'entreprises moyenne et d'entreprises qui se fédèrent bien et qui se serrent les coudes. Je veux dire par là, quand on a par exemple un secteur comme l'économie, l'automobile par exemple, qui va être en pleine crise, la Mayenne ne dépend pas uniquement de ce secteur-là. Donc on a la chance d'avoir un tissu d'entreprises et de PME très complémentaires mais très différentes les unes des autres. Donc la Mayenne, oui, s'en sort mieux que d'autres départements. Ça ne veut pas dire qu'on ne pense pas aux entreprises qui ont des difficultés. Et il y en a, hein, malheureusement. Mais c'est vrai qu'avec un taux de chômage très bas et une activité, la Mayenne traverse mieux cette crise que d'autres départements.
Voilà pourquoi le moral des entreprises mayennaises reste stable. Et puis, deuxième réponse de Patrice Degnaud, il faut que les dirigeants gardent le moral pour avancer.
D'abord parce qu'il n'y a pas le choix. Je ne sais plus qui a dit j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Je crois vraiment que c'est vrai. Ça ne veut pas dire qu'il faut masquer et cacher la vérité. Hein. C'est comme ça, c'est la vie. Aujourd'hui, c'est certainement plus difficile, mais moi j'ai toujours entendu ce discours-là, donc voilà, il faut s'adapter. Regardez objectivement autour de vous, hein. Est-ce que vous avez vu beaucoup de défaillances d'entreprises au cours de ces deux dernières années? Il n'y a pas eu plus de dépôts de bilan qu'il y a 4-5 ans, et même plutôt moins avec tous les dispositifs qu'il y a eu. Donc je crois qu'il faut aider les gens qui ont des idées, aider les gens qui ont des projets. En Mayenne, on ne vit pas une crise économique plus importante. Oui, donc oui, moi je suis... Mais je suis d'un naturel optimiste, vous allez me dire. Donc, de toute façon, il n'y a pas le choix, il faut l'être.
C'était Patrice Degnaud, président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Mayenne. Il dirige l'entreprise qu'il a fondée, le réseau Maisons et Services consacré, comme son nom l'indique, à la maison et aux services à la personne. Il comprend actuellement plus de 25 franchises réparties sur tout le territoire français.
On continue de parler économie, mais cette fois-ci économie politique. Le Conseil général de Mayenne s'est réuni pour le vote du budget 2012.
Le budget du département est de 317 millions d'euros. Pour rappel, 53 3% du budget de ce département sont consacrés au secteur social. Le social, on le sait, est la compétence principale des conseils généraux devant l'enseignement secondaire, collège, les transports et le développement économique. Le budget investissement augmente de 11% pour 2012, augmentation qui ne devrait pas être répercutée sur la pression fiscale, donc pas d'augmentation d'impôts, a assuré le président du conseil général Jean Arthuis.
Et on termine sur un mot de hippisme et on parle encore de la Mayenne avec le prix d'Amérique couru dimanche dernier à Vincennes.
La course de trot attelée la plus prestigieuse du monde comptait 3 drivers mayennais à son départ de dimanche, dont Yves Dreux. C'est Reddy Cash qui a remporté le prix pour la deuxième année consécutive. Un cheval prodige qui est né en Mayenne en 2005 au haras de la Fénière à la chapelle Rinsois. Ça se trouve entre Laval et Évron. Ce cheval, Reddy Cash, vit actuellement dans l'ordre, mais c'est un peu la Mayenne ici, dit-on, qui a gagné, non. Voilà pour l'actualité de cette semaine. À la semaine prochaine, Damien.
À la semaine prochaine, Véronique, et merci encore pour cette actualité mayonnaise.
L'Hebdo Région, les radios chrétiennes à l'écoute des Pays de la Loire.
Et direction la Loire-Atlantique, où nous retrouvons, comme chaque semaine, Anthony Torzec de Fidélité Nantes. Bonjour Anthony.
Bonjour Damien et bonjour à toutes et à tous.
Et cette semaine est une grande semaine musicale pour vous sur Nantes, puisque débute, après les folles journées en région, enfin la folle journée de Nantes ce week-end.
Mais oui, la folle journée qui bat son plein à Nantes depuis mercredi soir. Cette 18e édition est consacrée au Sacre Russe, soit 160 ans des plus grands compositeurs russe, 2000 artistes, 300 concerts, 150 000 billets vendus. La folle journée est évidemment l'événement musical de l'année, un rendez-vous qui ne cesse de grandir d'ailleurs. Cette année, un nouveau lieu accueille les concerts. Il s'agit du lieu unique tout près de la Cité des Congrès. Deux nouvelles salles permettent d'enrichir l'offre de la folle journée de 15 000 places supplémentaires. Et puis, depuis plusieurs années, la folle journée tente de rejoindre des publics éloignés des salles de spectacle. Des concerts sont ainsi proposés en prison, à l'hôpital et dans les quartiers. Mercredi, par exemple, la pianiste Claire-Marie Le Guay est venue jouer pour les personnes âgées dépendantes de l'hôpital Saint-Jacques de Nantes. Léa Bélante y était.
Un piano noir, une salle comble. Aujourd'hui, Claire-Marie Le Guay survole presque inconsciemment les touches de son piano à l'hôpital Saint-Jacques. Face à elle, un public atypique. De nombreuses personnes âgées dépendantes, seules, souffrant d'Alzheimer et de diverses pathologies, sont venues l'écouter. Le public est conquis, ravi par ses mélodies russes. Il en redemande même.
Disons qu'il sortait un petit peu de l'habitude. C'est la quatrième année. Les autres années, des compositeurs plus classiques, plus traditionnels. Là, ces compositeurs russes, il faut les découvrir. C'est nouveau. C'est moderne, finalement, cette musique. Moderne, c'est pas une musique classique comme on a eu l'habitude, c'est un autre domaine, faut pas l'ignorer, bien au contraire.
J'ai trouvé ça très bien, je trouve ça formidable. Faudrait être difficile, hein, franchement, hein, de voir les folles journées qui viennent jusqu'ici, c'est formidable, c'est une très très bonne idée.
C'était court et en même temps très très bien.
Oh, c'était très bien, formidable, hein. Ils sont tous enchantés, vraiment. Hein.
C'est la première fois que Claire-Marie Le Guay joue dans un hôpital, c'est pour elle un moment de partage particulier, intime. Elle nous explique pourquoi elle est venue jusqu'ici, pourquoi est si important pour elle.
Je pense que ça donne un vrai sens, son vrai sens à la musique, c'est-à-dire d'être en communion avec ceux qui écoutent la musique et de la transmettre. Le fait de pouvoir venir ici en musique, de pouvoir ramener la musique à des personnes qui ne peuvent pas accéder au concert est une chose magnifique et essentielle. Et je trouve que tous ceux qui participent, que ce soit René Martin, le créateur de la Folle Journée, l'association Les Petits Frères des Pauvres, l'hôpital, voilà, tous ceux qui participent à cet événement font un travail formidable. Je suis toujours très ouverte à ce type de rencontres. C'est pas toujours facile à réaliser, notamment quand on est pianiste, parce qu'il faut avoir un instrument et que le déplacement d'un piano n'est pas toujours une chose facile à réaliser. Mais quand c'est possible, je suis toujours heureuse de pouvoir le faire.
La pianiste Claire-Marie Le Guay donnera ce soir un concert à la Cité des Congrès de Nantes dans le cadre de la Folle Journée. Rendez-vous à 21h30.
Et plus largement, Anthony, rappelons que ces folles journées, cette folle journée dure jusqu'à dimanche. Mais l'actualité en Loire-Atlantique ne se résume pas qu'à ça. Preuve en est que la commune de Pornichel lance dimanche une consultation publique.
Oui, une consultation avec une question posée à tous les habitants et habitantes de Pornichet. Êtes-vous favorable à ce que Pornichet quitte la Carène, la communauté d'agglomération de la région de Saint-Nazaire ? C'est la question qui sera posée donc ce dimanche aux habitants de Pornichet, cette cité balnéaire dans la baie de Labo, il est actuellement intégré à la Carène, la communauté d'agglomération de Saint-Nazaire. Mais depuis plusieurs mois, le maire Robert Belliot souhaite sortir de cette intercommunalité pour rejoindre celle de la presqu'île guérandaise, Cap Atlantique. Les enjeux, selon lui, sont financiers, mais le maire de Saint-Nazaire, Joël Batteux, ne veut pas voir partir Pornichet de sa communauté d'agglomération. Donc, réponse des habitants dimanche prochain. La filière aéronautique recrute en Loire-Atlantique. Les usines Airbus de Nantes et de Saint-Nazaire auront besoin cette année de 1000 nouveaux salariés, des monteurs-ajusteurs, des chaudronniers, des câbleurs. Le problème, c'est que ces employés ne sont pas actuellement sur le marché du travail. Pôle emploi lance donc des formations pour les demandeurs d'emploi intéressés. Enfin, cette association fondée par l'abbé Pierre remet des hommes debout. Emmaüs inaugure ce samedi son deuxième point de vente en Loire-Atlantique. Après Bouguenais, la communauté s'installe à Trignac, près de Saint-Nazaire, pour la vente de mobilier, d'objets et de vêtements. Emmaüs, c'est une quarantaine de compagnons en Loire-Atlantique, des hommes blessés par la vie et qui retrouvent, grâce à ce travail de récupération et de restauration, un peu de dignité. Voilà pour l'actualité en Loire-Atlantique, Damien.
Merci Anthony, bon week-end et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
L'Hebdo Région, l'actualité des Pays de la Loire.
Une actualité qui se décline aussi en Vendée où nous retrouvons Fanny Brevet de RCF Vendée. Bonjour Fanny.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
L'actualité dans votre département cette semaine a été marquée entre autres par le Conseil national de l'UMP qui a validé samedi les investitures pour les législatives du mois de juin.
Oui, et pas de surprise sur les circonscriptions de La Roche-Talmont et des Sables où les sortants Dominique Caillot et Louis Guédon sont investis. Dans le Bocage, les Herbiers, la candidate MPF Véronique Besse aura l'appui de l'UMP. Dans la cinquième circonscription, celle de Fontenay-le-Comte, c'est Joël Sarlot qui a été investi par le parti de Nicolas Sarkozy. Il affrontera Dominique Souchet, MPF, qui s'est déjà déclaré candidat. Enfin, dans la circonscription La Roche-Chaland, les instances nationales n'ont pas tranché entre le sortant Jean-Luc Préel, Nouveau Centre, et le divers droite Alain Leboeuf. Elles ont réservé leur soutien jusqu'à une date indéterminée.
Dans un autre domaine, celui de la route, l'État, les départements de la Vendée et de Charente-Maritime ont signé mardi le protocole financier pour la réalisation de la future A831 entre Fontenay-le-Comte et Rochefort.
Oui, ce qui a déclenché l'appel européen à concession pour la réalisation de ce tronçon d'autoroute de 64 km d'un coût total de 890 millions d'euros, dont 125 millions de surcoût environnemental. L'État prend en charge 179 millions d'euros, la Vendée 36,8 et la Charente-Maritime 147,3. La durée de la concession est de 55 ans. Les candidats peuvent postuler jusqu'au 26 mars et le choix du concessionnaire doit se faire l'an prochain.
Je le disais en introduction de cette hebdo région, le Grand Parc du Puy du Fou rouvrira ses portes le 7 avril et a présenté cette semaine ses nouveautés, une nouveauté intitulée « Le monde imaginaire de La Fontaine ».
Un espace plus particulièrement dédié aux enfants, mais aussi aux adultes qui sont restés de grands enfants. L'objectif étant de convaincre les parents de jeunes enfants que le Grand Parc leur est aussi ouvert. Ce monde imaginaire, ce sont trois nouveautés en une, comme le précise Nicolas Devilliers, le président de l'association du Puy du Fou.
Sur à peu près 2 hectares, eh bien, les enfants pourront découvrir les fables de La Fontaine, mises en scène d'une manière très originale, mais aussi dans ce jardin extraordinaire, des essences d'arbres et de plantes incroyables qui chacune dit son proverbe. Donc la première nouveauté dans le monde imaginaire de La Fontaine, c'est le jardin extraordinaire. La seconde nouveauté, eh bien, c'est le labyrinthe des animaux, là aussi sur le thème des animaux de La Fontaine. C'est un labyrinthe géant, entièrement végétalisé, dans lequel les enfants pourront se perdre, mais suffisamment grand d'ailleurs et haut pour que les adultes puissent s'y perdre aussi. Et des surprises, parce que les animaux réservent des surprises à ceux qui se tromperaient dans le labyrinthe. Et vous savez bien qu'un labyrinthe, en général, on s'y perd. Et donc toute personne qui s'y perdra pourra être le sujet d'une surprise d'un animal de La Fontaine. Et puis enfin, le repère des enfants, qui est le troisième espace dans le monde imaginaire de La Fontaine, qui est une sorte de grand château de bois, d'architecture 17e siècle, puisque c'est le siècle de La Fontaine, qui permettra aux enfants, de là aussi, de s'amuser pour s'imaginer en princesse ou en chevalier dans ce repère des enfants.
Le monde imaginaire de La Fontaine sera ouvert tout au long de la journée, un monde sans acteurs, mais où les statues prennent vie, les arbres parlent et où les animaux, réels ou animés, font revivre 8 célèbres fables avec effets spéciaux et technologies cachées. Ce concept original sous forme de pause poétique est un pari pour le Puy du Fou, plutôt habitué aux grands spectacles. Les explications de Laurent Albert, directeur général du Grand Parc.
Pour compter tous les siècles de l'histoire de France, notre concept de voyage dans le temps, on ne peut pas à chaque fois avoir des tribunes de 3000 à 6000 places. Il faut également donc prendre des risques, en fait, comme on l'a fait à l'époque avec l'Odyssée, qui était un concept complètement différent. Et là, je pense que le monde imaginaire rentre un peu dans ce concept qui est demandé par nos visiteurs, hein, qui demande des moments un peu plus intimistes, un peu plus intimes, là où ce ne seront pas des milliers de visiteurs en même temps, ce seront des centaines, ce qui est déjà pas mal, qui pourront découvrir ce monde imaginaire à partir du 7 avril prochain. Nous avons fait intervenir d'abord pour les voix Laurent Deutsch, notre ami Gérard Depardieu, qui a prêté sa voix donc pour les fables, c'est assez extraordinaire. Frédéric Lunis, notre compositeur, jeune compositeur français qui a écrit cette musique, à la fois un peu du, comme on dit, rock et baroque.
Une musique qui sera enregistrée la semaine prochaine en République tchèque par l'Orchestre Philharmonique de Prague. Les équipes de Puy du Fou travaillent depuis 3 ans sur ce projet qui a coûté plus de 3 millions d'euros.
Enfin, un nouveau skipper se lance dans l'aventure Vendée Globe.
Lise Wardley, navigatrice de 32 ans, vient de signer pour 3 ans avec un nouveau sponsor dont le nom ne sera dévoilé que le 9 mars prochain. La navigatrice australienne, installée en Bretagne depuis 8 ans, est à ce jour la deuxième femme après Samantha Davis parmi les 17 inscrits à cette édition 2012 du Vendée Globe.
Et merci Fanny pour nous avoir présenté cette actualité de la Vendée. Bon week-end à vous. C'est la fin de cette hebdo région réalisée par les journalistes et techniciens de vos radios chrétiennes des Pays de la Loire. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous souhaite un bon week-end et vous dis à la semaine prochaine.